Le poète chinois George Wu, qui mourut au cours du dernier conflit sino-japonais, environ 3 siècles avant l'Égypte, comprenait parfaitement ce problème lorsqu'il dictait à son père Sok « Les poètes sont les sages-femmes démentes de la réalité. Ils ne voient pas ce qui est, ni ce qui peut être, mais ce qui doit devenir. » Et plus tard, dans sa dernière disquette adressée à son amante une semaine avant sa mort, il dit encore « Les mots sont les seules munitions dans la cartouchière de la vérité, et les poètes sont les francs-tireurs qui s'en servent. » Au commencement, voyez-vous, était le verbe, et le verbe prit consistance de chair dans la trame de l'univers humain. Seul le poète peut assurer l'expansion de l'univers en trouvant des raccourcis vers des réalités nouvelles, de la même manière que le propulseur Hawking creuse des galeries sous la barrière de l'espace-temps einsteinien. Être un poète, un vrai poète, me disais-je, c'était devenir l'avatar de l'humanité incarnée. Accepter de revêtir le manteau du poète, c'est porter la croix du Fils de l'homme et souffrir les affres de la naissance de la mère spirituelle de l'humanité. Devenir un vrai poète, c'est devenir Dieu. J'essayais de mon mieux d'expliquer ces choses à mes amis d'Evans Gate. Cul baiser, foufoune, pipi, caca, cul, enfoiré! Il secouait la tête en souriant et finissait par s'éloigner. Les grands poètes sont rarement compris par leurs contemporains. Les nuages marron jaune faisaient pleuvoir sur moi leur pluie acide. Je pataugeais jusqu'aux cuisses dans la boue pour nettoyer les algues sangsues qui obstruaient les canalisations d'égout de la ville. Raclure mourut au cours de ma deuxième année de séjour sur cette planète, alors que nous étions tous au travail sur le chantier de prolongement du canal de la première avenue jusqu'aux plaines de boue de Midsump. Un accident. Il avait voulu escalader une dune de vase pour sauver une rose souffrée de la jointoyeuse qui avançait lorsqu'un éboulement l'a engloutie. Kitty s'est mariée quelque temps après. Elle a continué à tapiner à mi-temps, mais nous nous sommes peu à peu perdus de vue. Elle est morte en couche peu après le tsunami vert qui a emporté Bouzeville. J'ai continué d'écrire des vers. Comment, me demanderez-vous, peut-on écrire de la poésie avec un vocabulaire de 9 mots de l'hémisphère droit? La réponse est que je me passais des mots. La poésie n'est faite qu'accessoirement de mots. Elle concerne au premier chef la vérité. Je traitais directement le Ding Ansi, la substance derrière l'ombre, tissant de puissants concepts, des images et des métaphores à la manière d'un ingénieur qui construirait un gratte-ciel en dressant d'abord un squelette en fibre composite, bien avant de mettre en place les revêtements de verre, de plastique et de chrome aluminium. Petit à petit, les mots me revinrent. Le cerveau possède une attitude remarquable à se refaçonner et à se ressourcer. Ce qui s'était perdu dans l'hémisphère gauche s'était installé ailleurs, ou avait fait valoir ses droits dans les légions sinistrées comme des fermiers qui retournent sur une plaine dévastée par l'incendie, mais rendue fertile par les cendres. Là où, peu de temps avant, un mot simple comme « sel » me faisait bafouiller et bégayer, mon cerveau explorant le vide comme le bout de la langue, l'emplacement d'une dent manquante, les paroles et les phrases revenaient peu à peu, comme les noms de compagnons de jeu oubliés. Dans la journée, je peinais dans les champs de boue, mais la nuit, assis à ma table branlante, j'écrivais mes cantos à la lumière d'une lampe à graisse fumante et grésillante. C'est Mark Twain qui a dit un jour de son ton bonhomme « La différence entre le mot juste et le mot presque juste est la même qu'entre l'éclair et la luciole. C'est amusant, mais incomplet. » Au cours des longs mois où j'ai commencé à rédiger mes cantos sur Heaven's Gate, je me suis aperçu que la différence entre trouver le mot juste et accepter d'utiliser un mot approximatif équivalait plutôt à la différence entre recevoir la foudre sur sa tête et contempler en spectateur les jeux d'éclairs dans le ciel. Mes cantos prirent forme et consistance. Écrits sur les fines feuilles de papier d'algues sangsues recyclées dont ils nous distribuaient des tonnes en guise de papier hygiénique, griffonnés à l'aide de feutres à bon marché vendus dans le magasin de la compagnie, mes cantos prirent peu à peu de l'ampleur. tandis que les mots me revenaient et se mettaient en place comme les fragments éparpillés d'un puzzle en 3D, j'avais éprouvé le besoin de leur donner une forme. Puisant dans les enseignements de Don Balthazar, j'avais tâté de la noblesse mesurée du vers épique de Milton, auquel j'avais ajouté, reprenant de plus en plus confiance, la sensualité romantique de Byron, associée à la célébration kitsienne du langage. Remuant bien le tout, je l'avais assaisonné d'un rien de cynisme brillant à la manière de Yeats et d'une pincée de l'arrogance obscure et scolastique de Pound. J'avais haché menu puis réduit en cubes cette mixture, non sans y avoir ajouté des ingrédients tels que la maîtrise de l'imagerie d'Eliot, le sentiment de l'espace chez Dylan Thomas, le poids du destin chez Delmore Schwartz, avec un zeste d'épouvante emprunté à Steve Thame, un semblant d'innocence à Salmud Brevi, une métrique complexe à Dayton, le culte du physique étant fourni par Hu, et le sens ludique radical par Edmund Kifferera. Pour finir, naturellement, j'avais écarté tout ce mélange et j'avais écrit les cantos dans un style entièrement à moi. Sans Onk, la terreur des bidonvilles, je serais probablement encore sur Heaven's Gate à creuser des canaux d'acide le jour et à écrire les cantos la nuit. C'était mon jour de repos et je me rendais avec mes cantos sous le bras, mon unique exemplaire manuscrit, à la bibliothèque de la compagnie dans un coin du réfectoire, pour y faire quelques recherches, lorsque Onk et deux de ses copains apparurent au détour d'une ruelle pour me demander le paiement d'avance de la taxe de protection pour le mois suivant. Nous n'avions pas de plaque universelle dans le protectorat atmosphérique d'Heaven's Gate. Nous avions l'habitude de payer nos dettes en bons de la compagnie ou en marques de marché noir. J'étais également démuni des deux. Onk demanda à voir ce que j'avais sous le bras. Sans réfléchir, je lui opposai un refus. Ce fut une grave erreur. Si je lui avais montré le manuscrit, il se serait probablement contenté de l'éparpiller dans la boue en me frappant un peu pour accompagner ses menaces. Mais mon refus le mit en colère, et les trois énergumènes m'arrachèrent le paquet, le déchirèrent, empiétinèrent le contenu dans la boue et me donnèrent, comme on dit, la raclée de ma vie. Or, il advint que ce jour-là, un VEM appartenant à la direction du contrôle de l'air du protectorat passait justement à basse altitude et que l'épouse du directeur, qui se rendait seule au magasin résidentiel de la compagnie, ordonna au chauffeur de se poser, me fit ramasser par son domestique androïde avec ce qui restait de mes cantos, puis me conduisit en personne à l'hôpital de la compagnie. Normalement, les membres de la force de travail dirigée ne recevaient d'aide médicale éventuelle que dans la clinique express, mais l'hôpital ne voulut pas refuser cette faveur à la femme du directeur. Et je fus admis, toujours sans connaissance, dans le service d'un médecin humain qui me mit quelque temps dans un caisson de guérison. Quoi qu'il en soit, pour rendre brève et banale une longue histoire banale, j'irai directement aux données ascendantes. Elenda, c'est ainsi que s'appelait la femme du directeur, lut mon manuscrit pendant que je flottais dans les fluides revitaliseurs. Et il lui plut. Le jour même où j'étais décanté à l'hôpital de la compagnie, Elenda se distransporta sur Renaissance, où elle montra mes cantos à sa sœur Félia, qui avait un ami dont la maîtresse connaissait un éditeur chez Transverse. Lorsque je m'éveillais, le lendemain, mes côtes cassées étaient réparées, la colonne vertébrale en morceaux était guérie, mes ecchymoses avaient disparu, et j'avais 5 dents neuves, une cornée pour mon œil gauche et un contrat avec Transverse. Mon recueil sortit 5 semaines plus tard. 8 jours après, Elenda et son directeur divorcèrent et elle m'épousa. C'était son 7e mariage et mon premier. Nous passâmes notre lune de miel dans le confluent. À notre retour, un mois plus tard, le livre s'était vendu à plus d'1 milliard d'exemplaires. C'était le premier recueil de poèmes figurant sur la liste des best-sellers depuis 4 siècles. Et j'étais plusieurs fois milliardaire. Tyrena Wainwright Faith fut ma première éditrice chez Transverse. C'est elle qui eut l'idée d'intituler le recueil « La Terre qui meurt ». Une recherche de copyright fit apparaître que le titre avait déjà été utilisé pour un roman 500 ans plus tôt, mais il était maintenant dans le domaine public et épuisé. C'est elle aussi qui sélectionna pour la publication les seuls passages des cantos où j'évoquais les derniers souvenirs nostalgiques de l'ancienne terre agonisante. Elle eut également l'idée de retirer les passages qui risquaient de rebuter le lecteur. Les développements philosophiques, les descriptions de ma mère, les hommages aux poètes du passé, les pages où je m'étais amusé à faire de la métrique expérimentale, les méditations personnelles, tout, en fait, à l'exception des derniers jours idylliques qui, vidés de toute substance lourde, devenaient bassement sentimentaux, voire insipides. 4 mois après sa première publication, La Terre qui meurt s'était vendue à 2,5 milliards d'exemplaires Transcop et une version abrégée et numérisée était disponible sur l'infosphère Voitout. Il y avait une option pour les holos et Tirena estimait que l'opération avait été parfaitement synchronisée. Le choc traumatique original de la mort de l'ancienne Terre s'était traduit par 100 ans de refus pur et simple, comme si la Terre n'avait jamais existé, ou presque, suivi d'une période d'intérêt renaissant qui avait culminé dans le foisonnement des sectes nostalgiques de l'ancienne Terre, que l'on pouvait trouver aujourd'hui sur tous les mondes du Retz. La sortie d'un livre, même en vers, qui traitait de la période finale, était tombée juste à temps. Pour moi, les premiers mois de cette nouvelle existence de célébrité médiatique de l'hégémonie représentèrent une désorientation beaucoup plus grande que mon premier passage d'enfant gâté de l'ancienne Terre à l'état de bêta humain sur Heaven's Gate. Pendant cette période, je signais mon livre et des transcopes sur plus de 100 planètes différentes. Je fis une apparition dans le show de Marmon Almit, je fus reçu par le président Sénister Perrot, par le tribun de la Pangermie Drudy Fine et par une 20aine de sénateurs. Je pris la parole devant la Société interplanétaire des femmes de lettres et devant l'Association des écrivains de l'Usus. Je fus nommé docteur honoris causa de l'Université de la Terre Nouvelle et de Cambridge II. Je fus fêté, interviewé, médiatisé, critiqué, favorablement, biographié, illicitement, vedettisé, feuilletonisé et grugé. Je ne m'ennuyais pas. Note pour une esquisse de la vie dans l'hégémonie. Ma demeure comprend 38 pièces sur 36 planètes. Pas de porte. Les entrées voûtées sont des accès distance. Quelques-unes sont protégées des regards par des tentures, mais la plupart sont ouvertes à la vue et aux visites. Chaque chambre possède plusieurs fenêtres et au moins 2 murs avec des accès. De la grande salle à manger du vecteur Renaissance, j'aperçois le ciel de bronze et les tours vert de gris de la forteresse Aînable dans la vallée située en contrebas de mon pic volcanique. En tournant la tête, je vois à travers l'ouverture distance par-delà l'étendue du grand tapis blanc du hall de réception l'océan Edgar Allen dont les vagues se brisent au pied des tours du Cap Prospero sur Nevermore. Ma bibliothèque a vue sur les glaciers et les cieux verts de Nordholm et il me suffit de faire 10 pas pour descendre par un étroit escalier dans ma tour de travail où une grande salle circulaire et confortable s'ouvre sur 360 degrés par des parois de verre polarisées au somptueux spectacle des hauts sommets du Kushpat Karakoram, une chaîne de montagnes de 2000 km de long qui s'étend de la colonie la plus proche jusqu'aux confins orientaux de la République de Jamnu sur Deneb Drey. L'énorme chambre à dormir que je partage avec Elenda se balance doucement dans les branches d'un arbre-monde de 300 mètres sur la planète des Templiers de God's Grove. Elle est reliée à un solarium isolé au milieu des salines arides des bons. Mais toutes nos ouvertures ne donnent pas sur des déserts. La salle des médias s'ouvre sur une aire de glisseurs au 138e étage d'une tour cambrée de Tossetti Central. Et notre patio est au milieu d'une terrasse qui domine le marché du vieux quartier animé de la Nouvelle Jérusalem. L'architecte, disciple du légendaire Milon de Havreux, a incorporé plusieurs gags dans la conception de cette demeure. Les marches d'escalier qui descendent dans la tour, par exemple. Mais il y a aussi la sortie du nid d'aigle qui mène à la salle d'entraînement du plus bas niveau de la plus profonde ruche de l'Usus. Ou peut-être encore la salle de bain des invités, qui comprend des toilettes, un bidet, un lavabo et une douche à bord d'un radeau sans mur flottant sur l'océan planétaire mauve de Mare Infinitus. Au début, les changements de gravité au passage d'une pièce à l'autre me dérangeaient un peu, mais je n'ai pas mis trop longtemps à m'adapter. En me durcissant intérieurement pour encaisser la poussée de l'Usus, des brons ou de sol Draconis Septem, tandis que mon organisme s'habituait inconsciemment à évoluer, léger, sous la gravité inférieure à 1 de la plupart des autres pièces. Durant les 10 mois standards que nous passons ensemble, Elenda et moi, nous restons très peu à la maison. Nous préférons aller avec nos amis dans les arcologies de loisirs et de villégiatures ou dans les boîtes de nuit du Retz. Nos amis font partie de l'ex-faune d'Istrance qui se fait maintenant appeler le troupeau caribou, du nom d'un mammifère migrateur disparu de l'ancienne terre. Ce troupeau comprend des écrivains, des artistes visuels en renom, des intellectuels du confluent, des représentants médiatiques de la pangermie, quelques ARNistes radicaux, des esthéticiens génétiques, des aristocrates rétiens, de riches distranslatés, des adeptes du flashback, des réalisateurs de théâtre et de holo, divers acteurs et artistes de scène, un certain nombre de mafiosi rangés, le tout additionné d'une liste tournante de célébrités récentes, parmi lesquels, bien sûr, je figurais en bonne place. Tout ce monde boit, utilise des stims et des auto-implants, se câble, s'offre les meilleures drogues sur le marché. La plus en vogue est le flashback. Pour apprécier pleinement ce vice réservé à la haute société, il faut avoir toute la gamme des implants les plus coûteux. Elenda a veillé à ce que je ne manque de rien. Biomoniteur, extenseur sensoriel, persoc interne, dérivation neurale, props, processeur de métacortex, puce sanguine, verplat ARN. Ma propre mère n'aurait pas reconnu mon ventre. À 2 reprises, j'essaie le flashback. La première expérience est une vraie glissade. Je cible la réception de mon 9e anniversaire et je fais mouche à la première salve. Tout y est. Le cœur des domestiques aux aurores sur la pelouse nord, Don Balthazar annulant la classe à contre-cœur pour que je puisse passer la journée avec Amalfi dans mon VEM et sillonner les dunes grises du bassin de l'Amazone dans un joyeux abandon, la procession des flambeaux le soir, tandis que les représentants des autres anciennes familles continuent d'arriver, leurs présents somptueux enveloppés dans du papier qui brille sous les rayons de la lune et des 10 000 lumières. Je sors de ces 9 heures de flashback, le sourire aux lèvres. Mais le second voyage me tue presque. J'ai 4 ans et je suis en train de pleurer à la recherche de ma mère à travers le labyrinthe sans fin des pièces qui sentent la poussière et les vieux meubles. Des domestiques androïdes cherchent à me consoler, mais j'écarte leurs mains et je cours dans des couloirs tachés d'ombre et de souillure de générations trop nombreuses. Enfreignant la première règle qui m'ait été enseignée, j'ouvre toute grande la porte de sa chambre de couture, le sein des seins où elle se retire pendant 3 heures chaque après-midi, et d'où elle ressort avec son sourire si doux. L'ourlet de sa robe pâle bruissant sur le tapis comme l'écho du soupir d'un fantôme. Ma mère est assise dans l'ombre. J'ai 4 ans et je pleure parce que je me suis fait mal aux doigts. Je cours jusqu'à elle et je me jette dans ses bras. Elle n'a pas de réaction. L'un de ses bras graciles repose sur le dossier du fauteuil, l'autre est inerte sur le coussin. J'ai un mouvement de recul, choqué par sa froide placidité. J'écarte les lourdes tentures sans quitter ses genoux. Les yeux de ma mère sont vides, révulsés dans leurs orbites. Ses lèvres sont entrouvertes. Un filet de bave coule au coin de ses lèvres et brille sur son menton parfait. Parmi les fils d'or de sa chevelure, coiffée dans le style des grandes dames du temps jadis qu'elle adore, je vois briller l'éclat d'acier des filaments stim et celui plus terne de la prise crânienne où elle les a branchés. La peau à nu autour de la prise a la blancheur de l'os. Sur la table, près de sa main gauche, est posée la seringue vide du flashback. Les domestiques arrivent et m'éloignent. Ma mère n'a pas un seul battement de paupière. On m'entraîne, hurlant. Je me réveille en criant. C'est peut-être mon refus de toucher de nouveau au flashback qui a précipité le départ d'Elenda. Et j'en doute. Je n'étais pour elle qu'un jouet, un primitif qui l'avait momentanément amusé par son innocence face à un mode de vie qu'elle considérait comme acquis depuis des décennies. Quoi qu'il en soit, mon refus nous sépara concrètement durant toutes les heures et toutes les journées qu'elle passait plongée dans le flashback. Il s'agissait de temps réel, et il arrive que les adeptes de cette drogue, lorsqu'ils meurent, totalisent plus de jours de flashback que de conscience réelle. Au début, je me distrayais avec les implants et toute la technologie qui m'avait été refusée jusque-là en tant que membre d'une ancienne famille de la Terre. L'infosphère, cette année-là, fut pour moi un régal. J'invoquais sans cesse des informations de toutes sortes, pris par une frénésie d'interface totale avec le réseau. J'étais aussi accroché aux données brutes que le troupeau de caribous à ses stims et à ses drogues. J'imaginais Don Balthazar en train de faire plusieurs tours dans sa tombe en me voyant abandonner la mémorisation à long terme au profit de l'éphémère satisfaction d'une omniscience obtenue par un plan interposé. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce que j'avais perdu. L'Odyssée de Fitzgerald, la marche finale de Wu, et une douzaine d'autres œuvres épiques qui avaient survécu à mon accident cérébral étaient maintenant pareilles à des fragments de nuages effilochés par un grand vent. Ce n'est que beaucoup plus tard que, libéré des implants, je l'ai rappris laborieusement. Pour la première et unique fois de ma vie, je m'intéressais à la politique. Jour et nuit, j'assistais aux débats du Sénat ou de la Pangermie par câble distrans. Quelqu'un un jour a estimé qu'il se traite quotidiennement une centaine d'actes de législation dans la Pangermie. Durant les longs mois où je demeurais confiné dans mon sensorium, je n'en manquais aucun. Ma voix et mon nom étaient célèbres sur tous les plateaux de débat. Aucun projet de loi n'était trop modeste, aucune question trop insignifiante ou trop complexe pour que je m'en mêle. Le simple fait de donner mon avis sur tout à chaque instant me communiquait le sentiment factice d'avoir accompli quelque chose. Mais je finis par abandonner mon obsession politique lorsque je m'aperçus que les affaires de la Pangermie me forçaient ou bien à passer ma vie entre quatre murs, ou bien à me transformer en zombie ambulant. Quelqu'un qui reste sans interruption connecté à ses implants offre un piètre spectacle à son entourage, et je n'avais pas besoin des sarcasmes d'Elenda pour me rendre compte que si je continuais dans cette voie, je deviendrais un légume pangermique comme des millions d'autres dans tout le Retz. Je renonçais donc à la politique, mais je m'étais déjà trouvé une nouvelle passion, la religion. J'adhérais à des cultes, j'aidais même à créer de nouvelles foutues religions. L'église zen gnostique connaissait alors un essor fantastique et je devins un de ses piliers. On me vit souvent sur les plateaux de la TVHD recherchant mes centres de pouvoir, avec le zèle d'un musulman pré-égérien en pèlerinage à la Mecque. Sans compter que j'adorais me distransporter. J'avais gagné près de 100 millions de marques avec la Terre qui meurt, et Elenda avait sagement placé l'argent, mais une maison distrance comme la mienne devait coûter au bas mot 50 000 marques juste pour passer d'une de mes 36 pièces à l'autre. Et je ne me limitais pas à ces pièces. Transverse m'avait procuré une plaque universelle en or dont je faisais un usage abondant aux quatre coins du Retz. Je séjournais des semaines entières dans les endroits les plus luxueux et je louais des VEM pour explorer les lieux les plus reculés des planètes les plus lointaines à la recherche de mes centres de pouvoir. Je ne trouvais, à vrai dire, pas grand-chose. Je renonçais au gnosticisme zen, à peu près à l'époque où Elenda demanda le divorce. J'étais alors submergé de factures, et je dus réaliser la plupart des placements à long terme qui me restaient après qu'Elenda eut prélevé sa part. Je n'étais pas seulement naïf et amoureux lorsqu'elle avait fait établir notre contrat de mariage par ses avocats, j'étais totalement stupide. Finalement, même en faisant des économies sur le distrans et en me séparant de mes domestiques androïdes, j'étais au bord du désastre financier. J'allais trouver Tirena Weingreen Faith. « Personne n'a envie de lire de la poésie !» me dit-elle en feuilletant les quelques pages des nouveaux cantos que j'avais écrites depuis un an et demi. « Comment ça » protestai-je. « La terre qui meurt, c'est bien de la poésie, non ?» C'était un coup de veine qui ne s'explique que par le fait que l'inconscient collectif était prêt à le recevoir. Elle avait de longs ongles verts recourbés à la nouvelle mode des mandarins. Ils s'agrippaient à mon manuscrit comme les griffes d'un insecte bourré de chlorophylle. « Qui vous dit que l'inconscient collectif n'est pas prêt à recevoir celui-ci » demandai-je avec un début d'agacement. Elle se mit à rire. Ce n'était pas un bruit très agréable à entendre. « Martin, Martin, » fit-elle, « c'est de la poésie que vous m'apportez là. Mais ce qui transparaît en réalité, c'est la solitude, le dépaysement, l'angoisse et un regard cynique sur l'humanité. Et alors, personne n'a envie de payer pour connaître les angoisses des autres, fit Irena en riant. Tournant le dos à son bureau, je m'éloignais jusqu'à l'extrémité opposée de la pièce qui occupait tout le 435e étage de la spire transverse dans le quartier Babel de TC Carré. Il n'y avait pas la moindre fenêtre dans cette salle circulaire ouverte du sol au plafond et protégée par un champ de confinement à énergie solaire exempte de tout miroitement. On avait l'impression de se retrouver entre deux plateaux gris suspendus entre ciel et terre. Je contemplais les nuages écarlates qui passaient entre les plateaux inférieurs à 500 mètres au-dessous de nous, et je me fis un certain nombre de réflexions sur l'hubris en général. Le bureau de Tirena n'avait ni porte, ni escalier, ni ascenseur, ni champ élévateur, ni trappe, ni liaison d'aucune sorte avec les autres étages. On n'y entrait que par le distrance à cinq facettes miroitantes qui flottait au milieu des airs comme une holosculpture abstraite. En même temps qu'à l'hubris, je me pris à songer aux incendies et aux pannes de courant. Vous voulez dire que vous ne voulez pas le publier ? Demandai-je en me retournant.
« Pas du tout !»
fit mon éditrice en riant. « Vous avez fait gagner des milliards de marques à Transverse, Martin. Nous le publierons donc. Simplement, ça ne se vendra pas. »«
Vous vous trompez !»
hurlai-je.
« Tout le monde n'apprécie pas la poésie de qualité, mais il y a encore des gens qui aiment ça pour assurer le succès de ce livre !»
Elle ne riait plus, mais le sourire de ses lèvres vertes lui tordirent la bouche. « Martin, Martin !» Depuis Gutenberg, le pourcentage de la population qui lit encore des livres n'a cessé de diminuer. Au XXe siècle, moins de 2% des habitants des pays dits démocratiques et industrialisés lisaient plus d'un livre par an. Et c'était avant l'avènement des machines intelligentes, de l'infosphère et des environnements conviviaux. Après les GIR, 98% de la population totale de l'hégémonie n'avait plus aucune raison de lire quoi que ce soit. L'habitude d'apprendre s'est donc perdue. Aujourd'hui, c'est encore pire. Le RETS représente un peu plus de 100 milliards d'êtres humains parmi lesquels 1% à peine prend la peine de transcopier des matériaux imprimés, et encore moins de lire des livres.
« La Terre qui meurt a fait près de 3 milliards d'exemplaires », lui rappelai-je.
Le syndrome du voyage du pèlerin.
Le syndrome de quoi ?
Le voyage du pèlerin. Dans la colonie du Massachusetts, sur l'ancienne terre, au XVIIe siècle, je crois, ce livre figurait en bonne place dans chaque maison. Mais cela ne veut pas dire que les gens étaient obligés de le lire. Ce fut la même chose avec le Mein Kampf d'Hitler, ou les visions dans la pupille d'un enfant décapité.
« Qui était Hitler ? » demandai-je.
Tirena eut un petit sourire. « Un politicien de l'ancienne terre qui a écrit quelques livres. Mein Kampf est toujours réédité. Transverse renouvelle ses droits exclusifs tous les 138 ans.
« Écoutez, lui dis-je, je vais prendre quelques semaines pour fignoler mes cantos et y mettre le meilleur de moi-même.
Comme vous voudrez.
Je suppose que vous avez l'intention d'y pratiquer des coupures comme la dernière fois. »
« Pas du tout. Il n'y a pas de noyau nostalgique cette fois-ci. Vous pouvez écrire tout ce que vous voudrez. »
Je battis des paupières. « Vous voulez dire que je peux conserver les vers libres ?»«
Naturellement. »
« Et les passages philosophiques ?»«
Ne vous gênez pas. »
« Les recherches d'écriture expérimentale ?»«
Bien sûr. »
« Vous l'imprimerez tel qu'il est ?»«
Absolument. »
« Et vous dites qu'il n'y a aucune chance pour que cela se vende ?»
Pas la plus petite chance.
Les quelques semaines de fignolage durèrent 10 mois et tournèrent à l'obsession acharnée. Je condamnai la plupart des pièces de la maison pour ne garder que la tour de Denebdrey, la salle d'entraînement de Lusus, la cuisine et la salle de bain flottante de Mare Infinitus. Je travaillais chaque jour 10 heures d'affilée, suivi d'exercices physiques intenses, puis d'un repas et d'un somme. Après quoi je retournais à ma table de travail pour une nouvelle période de 8 heures. C'était le même rythme que 5 ans plus tôt, lorsque je récupérais de mon attaque cérébrale, et qu'il me fallait parfois une heure ou un jour pour trouver un mot ou pour laisser un concept prendre racine dans le sol ferme du langage. Le processus était encore plus lent cette fois-ci. La recherche du mot précis, du rythme parfait, de l'image enjouée ou de l'analogie capable de transposer la plus subtile des émotions me laissait pantelant, en proie aux affres les plus pénibles de la création. Au bout de 10 mois standards, je mis un terme à ce labeur d'enfer, sacrifiant à l'aphorisme selon lequel on ne finit pas un livre ou un poème. On l'abandonne purement et simplement. « Qu'en pensez-vous ? » demandai-je à Tiréna tandis qu'elle parcourait mon manuscrit. Ses yeux étaient des disques opaques de couleur bronze à la mode cette semaine-là, mais cela ne m'empêcha pas de voir ses larmes. Elle en essuya furtivement une en murmurant « C'est merveilleux. » J'ai essayé de retrouver une partie de l'esprit de certains anciens, lui dis-je soudain modeste. « Vous avez brillamment réussi. L'interlude d'Evansgate demande à être affiné. Il est parfait ainsi. J'ai voulu y traiter le thème de la solitude. Vous avez tout dit sur la solitude. Vous pensez qu'il n'y a rien à reprendre ? C'est la perfection même. Un chef-d'œuvre. Et cela se vendra ? Pas la moindre foutue chance. 70 millions de transcopes des cantos étaient initialement prévus. Transverse fit passer des annonces dans toute l'infosphère, acheta des plages publicitaires sur le réseau TVHD, programma des encarts logiciels, réussit à obtenir des commentaires des auteurs les plus en vogue pour les pages de couverture, s'assura qu'il y aurait un article dans la section littéraire du New York Times et dans le magazine de TC Carré, dépensa en bref une fortune dans sa campagne de lancement. 23 000 transcopes des cantos se vendirent la première année de publication, à raison de 10% du prix de couverture représentant 12 km. Je couvris 13 800 des 2 millions de km que m'avait accordé Transverse à titre d'avance. La deuxième année, les ventes atteignirent 638 exemplaires transcopes. L'infosphère n'acheta pas les droits, les holos ne demandèrent pas d'options et il n'y eut pas de tournée de promotion. Ce que les cantos n'avaient pas réalisé dans les ventes, ils le récupérèrent dans la quantité impressionnante de critiques défavorables dont ils furent l'objet. Archaïques, indéchiffrables, sans prise d'aucune sorte sur nos préoccupations quotidiennes, écrivait la chronique littéraire du Times. H. Silenius nous livre ici la quintessence de l'art de la non-communication, estimait le magazine de TC Carré sous la plume d'Urban Capré, en s'adonnant à une orgie d'hermétisme prétentieux. Mais le coup de grâce m'était porté par Marmon Hamlet de l'infosphère Voitou qui s'écriait « La pseudo-poésie du pseudo-poète je ne sais qui, je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas pu la lire et je n'ai pas essayé. » Tiréna Weingreen-Faith ne parut pas s'émouvoir pour autant. 2 semaines après les premières critiques et les premiers retours d'exemplaires transcopes, un jour après la fin de ma supercuite de 13 jours, je me distransportais dans son bureau et me laissais choir dans le fauteuil de mousse levée, tapis au centre du plateau comme une panthère de velours noir. L'une des légendaires tempêtes de Tossetti Central était en train de se déchaîner au dehors, et des éclairs jupitériens déchiraient l'air strié de traînées sanguines à la limite du champ de confinement invisible. « Ne vous frappez pas !» me dit Tiréna, dont la coiffure à la mode de cette semaine-là projetait des pics noirs à 50 cm au-dessus de son front et dont le corps était couvert d'un champ opacifiant générateur de courants de couleurs changeantes qui tantôt cachait et tantôt dévoilait sa nudité sous-jacente. « Le premier tirage ne s'est élevé qu'à 60 000 transcopes. La perte n'est pas terrible. »« Mais vous parliez de 70 millions. »« Je sais. » Nous avons changé d'avis après avoir donné votre manuscrit à lire à l'IA de la maison. Je m'enfonçais un peu plus dans la mousse levée. Même l'IA a détesté mon livre. Bien au contraire, elle l'a adoré. C'est là que nous avons acquis la certitude que le public ne marcherait pas. Et le technocentre, demandai-je, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de leur vendre quelques exemplaires ? C'est déjà fait, répliqua Tiréna. Il y en a eu un de vendu. Les millions d'IA qui sont là-bas l'ont probablement lu en temps réel partagé dans la minute même où il est sorti du méga-trans. Vous savez, la notion de copyright interstellaire, ça ne tient pas la route quand on a affaire à du silicone. D'accord, fis-je en m'affaissant de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Au dehors, des éclairs de la taille des autoroutes de l'ancienne Terre dansaient entre les spires de la compagnie et les autres immeubles dans les nuages. Tirena se leva de son siège et s'avança jusqu'à la limite de la moquette circulaire dont le centre était occupé par sa table de travail. Ses champs corporels miroitaient comme une nappe de pétrole ionisée sur la mer. « Maintenant, dit-elle, c'est à vous de décider si vous voulez être un écrivain ou le plus grand paumé du Retz. »« Hein ? Vous m'avez très bien comprise, fit Tirena. » Elle se tourna vers moi en souriant. Ses dents avaient été taillées en pointe dorée. Notre contrat stipule que nous pouvons récupérer les avances qui vous ont été versées par tout moyen à notre convenance, reprit-elle. Par exemple, par la saisie de tous vos avoirs à l'interbanque, par la confiscation des pièces d'or que vous avez cachées sur Homefry, ou par la vente de votre fastueuse maison d'Istrance. Vous serez alors bon pour aller grossir les rangs des artistes dilettantes, des marginaux et de tous les cas psychiatriques dont le roi Billy le Triste s'entoure sur je ne sais plus quelle planète reculée où il a ses pénates. Je la regardai en ouvrant de grands yeux. « L'autre solution, reprit-elle avec son sourire de cannibale, consiste à oublier ce petit contretemps et à vous mettre au travail sur votre prochain livre. »